Bien, j'ai donné comme titre les affects des exils. C'est une évidence, donc ça a été rappelé, qu'il n'y a pas un exil, mais des exils, un par un. C'est ce qui nous intéresse du point de vue de la clinique analytique. Cela pose la question de savoir s'il y a une clinique spécifique de l'exil, ou si juste l'exil est un récit propre à chacun, à considérer comme pour toute expérience du sujet, soit comme un réel traumatique ou pas, et toujours recouvert d'un mythe. Je parle de cette prémisse. Avant tout, un exilé est celui qui se considère exilé. Cela englobe ceux qui ont été forcés à quitter leur lieu d'origine, mais cela va au-delà. J'aborde donc les affects d'exil à partir de cette prémisse. Si on suit La Rochefoucauld, cité par Lacan, qui pose que l'amour n'existerait pas si le mot amour n'existerait pas, on pourrait soutenir que les affects de l'exil sont ceux qui sont possibles par la langue, celle de chacun. Dès lors, quels affects les exils mobilisent-ils? Le sens commun est assez homogène. Un exil suppose une perte. Mais qu'est-ce qui est perdu au juste? Le langage fait la série. La patrie, la famille, la langue. La liste n'est pas exhaustive. Certes, c'est vrai, mais il faudrait nuancer. La mondialisation a changé l'exil. Rien à voir un exilé de nos jours avec Internet, Skype et WhatsApp que l'exilé d'il y a 30 ans, sans parler des exilés du début du 20e, pour qui le douleur de la perte s'est traduit pour certains par le rejet de la langue de l'endroit de départ jusqu'au choix du silence quant au transmettre aux générations suivantes d'où il venait. C'est impossible de nos jours. Il y a donc les affects qui se disent, puis les affects qui se taisent. Ainsi, ce qu'on attrape de ces affects sont des termes qui viennent le plus souvent de l'autre de l'exilé et concernent le manque, et quand l'autre veut trouver un affect plus spécifique, il évoque une palette qui va du dépaysement, le mal du pays, à la nostalgie. L'imaginaire collectif rajoute une couche de projection d'affect en associant forcément la déchirure et l'arrachement de la patrie. Outre que tous ces affects sont loin d'être généralisables et non spécifiques, on perçoit surtout les limites du langage à capter ce qui peut être l'intime d'une perte et l'obstacle dressé par la tentative de comprendre la souffrance. Il est certain qu'un exil ne peut pas être défini juste par l'éloignement physique. Un séjour à l'étranger, allant jusqu'à des années d'absence du propre pays, n'a rien à voir avec une expulsion d'un pays, avec l'interdiction ou risque de rentrer, même si cela est une contrainte de courte durée. Mais l'exil recouvre d'autres situations que la rupture forcée, Sylvie l'a évoqué. Je ne me réfère pas ici à l'exil structural, celui qui nous met nécessairement en dehors du fait de l'exclusion du rapport sexuel, du fait de l'entrée du langage. Je me réfère à ce qui s'éprouve comme exil et dont il faudra des longues années et parfois une longue analyse pour apercevoir les liens entre l'exil des structures et l'exil de l'expérience. Par exemple, quitter le quartier de son enfance est déjà une expérience d'exil. dans mon expérience, quand j'ai changé de quartier, j'ai eu la grande surprise de constater que les gens parlaient très différemment que dans le quartier précédent. Le preuve de l'exil est donc pour tous et commence très tôt. Puis il y a le grand exil, auquel implicitement on fait référence. C'est lui qui comporte le déplacement à un autre pays. C'est vrai. Il y a des pays plus marqués par l'exil que d'autres, pas seulement car à la base, ils ont été des pays faits essentiellement par l'immigration, donc par une aspiration vers l'intérieur, mais aussi parce que leur histoire a imposé la contrainte à l'exode, soit quelque chose qui pousse vers l'extérieur. D'ailleurs, il y a des contextes qui poussent à s'interroger. Je reste ou je m'en vais? Je ne parle pas d'une personne, mais d'une partie d'une génération. Et cela n'est pas le fait nécessairement d'un choix forcé pour des raisons économiques. Mais l'exil, je le disais, n'est pas juste l'éloignement. Il convient de tenir compte de cette notion, utilisée surtout en espagnol, qui est celle de l'exil interne. Elle a été forgée dans l'Espagne du franquisme, pensons à García Lorca ou Dalí, et désigne le choix d'un certain nombre d'artistes ou poètes de rester et résister en se décalant par rapport à l'idéologie fasciste. D'autres artistes ont fait de même dans les dictatures d'Amérique latine. L'exil interne a ceci d'intéressant qui démontre qu'on peut faire les preuves de l'exil tout en ne se déplaçant pas dans l'espace. L'exil, qu'il soit interne ou externe, a ceci en commun, c'est que le sujet incarne pour l'autre, pour le grand autre. Kafka l'indique dans Le Château, avec l'idée de l'étranger qui pose la question que personne ne pose, ce qui forcément dérange. Je reprends la psychanalyse. Elle est marquée par l'exil. Sidi l'a évoqué, celui de Freud, Mélanie Klein avant lui, celui des analystes pendant la guerre et encore dans nos jours. Puis il y a les analysants. Les termes exil sont un lieu propice où se cultive le discours analytique. Il suffit de se référer à notre expérience. C'est rare, l'analysant qui n'a pas connu, lui, ou dans les générations précédentes, l'expérience de l'exil. Avant tout, l'exil touche le sentiment de la propre identité et le déficit que chacun rencontre à rendre compte de ce sentiment. Chaque langue tente de le combler à sa manière. Les langues induisent les affects d'exil. L'on perçoit les différences énormes entre l'une ou l'autre. Prenons le français et comment on exprime le manque d'une personne, du pays, ou même le prouver d'un manque que ne peut pas nommer. Il s'agit de l'éprouver de l'incomplétude qu'on possédait, mais avec une question souvent derrière. Est-ce que je manque à l'autre? Avec un grand A à nouveau, à celui qu'on a quitté. Quand cela peut prendre une forme plus douloureuse, cela est exprimé par les regrets. Mais il manque, par exemple, une dimension plus intime, rendue, par exemple, par l'espagnol, qui par ailleurs a aussi les manques et les regrets. Deux termes de l'espagnol sont ainsi, me semble-t-il, intraduisibles. La añoranza o extrañar. Cela démontre qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans l'affect d'exil de l'autre. Ce qui s'exemplifie encore avec un autre terme intraduisible, en portugais cette fois-ci, saudade, qui évoque la nostalgie, le manque, mais dont l'avantage donne davantage l'impression de quelque chose qui vous retient ailleurs, vous aspire, vous appelle à revenir. Il n'y a que ceux qui habitent la langue portugaise qui ont peu éprouvé sa otage. Mais il y a aussi les affects positifs de l'exil. On en parle moins. Certes, ils sont parfois transitoires, apparaissent juste au départ où ils s'enracinent avec le temps. Ils sont liés à une ouverture libidinale et entraînent un sentiment de libération. En premier lieu, l'espoir, une nouvelle vie, de la liberté acquise. Puis, les affects de l'exil choisi, car l'exil n'est pas toujours un fait d'exclusion ou d'un choix forcé. Il y a parfois des exils des choix. Joyce a fait le choix d'un exil par rejet. C'est le rejet d'une inclusion. Puis il y a aussi les choix des tentations, que ce soit par la brillance phallique ou pour rejoindre un idéal. La tentation implique toujours, dans ce cas, une séparation avec l'autre. Sauf que contrairement au choix de rejet, le choix de la tentation implique la rencontre avec un nouvel autre, grand autre. On ne peut pas dire que l'exilé choisit l'autre qu'au départ il ne connaît pas. Cela étant, il y a un moment où se pose la question, où se pose le choix de rester dans le lieu d'exil ou de revenir au point de départ. Si ce n'est pas l'éloignement, ni la durée, à partir de quand on peut parler d'exil quand il ne s'agit pas simplement d'une expulsion. Il y a, je crois, une frontière que certains dépassent, d'autres pas, et qui change radicalement le rapport à l'exil. C'est le moment où le sujet acquiert la conviction intime que c'est le nouveau endroit, c'est lui qui va rester, le temps qui lui reste à vivre. Certains ont cette conviction intime dès qu'ils ont quitté un endroit pour l'autre. Freud savait qu'il allait mourir en Angleterre. Il savait que c'était un exil sans retour. L'expérience d'exil rejoint ici l'exil des structures, soit l'impossible retour. Or, ce n'est pas le contexte de l'époque ni sa maladie qui font de cette certitude anticipée de cet exil sans retour un cas à part. Prenons les choses avec le prisme de la clinique analytique. On perçoit parfois, parmi les affects positifs, l'effet que cela peut produire pour certains les changements des semblants. Ce qui pour certains est motif d'une plainte. Je ne connais pas les codes. Pour certains est le contraire, une aisance avec les nouveaux semblants. Souvent l'effet d'une traversée des anciens semblants. On perçoit aussi comment tout cela est affecté par le retour des affects qu'on croyait dépassés, comme la culpabilité. Prenons cet exemple court, qui n'est pas rare, celui du sujet complètement convaincu d'avoir choisi son lieu d'exil, dans des conditions, il faut dire, très confortables, avec une pleine satisfaction concernant son choix professionnel. Il éprouve encore, une fois, en même temps, la honte et la culpabilité à l'idée de voir son père et que celui-ci constate que ses petits-enfants, les enfants de l'analysant, parlent entre eux l'anglais qui n'est pas la langue du grand-père. La question de la séparation avec l'autre se pose. Les affects, dans ce cas, renvoient certes à une autre origine de la culpabilité, mais ils sont l'indice d'un retour, d'un grand autre à l'origine du doute, est-ce que vraiment je vais rester ici pour toujours? Puis, il y a cette autre question qui traverse toutes les analyses des exilés, je crois, et qui est réactivée à chaque voyage des retours dans ces terres. qu'est-ce que je serais devenu si j'étais resté? Ce sont des points centraux dans lesquels tournent beaucoup d'analyses des sujets exilés qui restent en suspens quant à la décision d'un retour. Certaines analyses se terminent et on constate que le sujet a laissé tomber la question. Pour d'autres, cela se termine par cet affect de certitude, celui qui en exil peut être sans nostalgie. Ce n'est pas mieux ni pire, mais c'est différence.